Bienvenue dans le podcast Culture Sport Club, l'épisode 9, Top Jingle.
À droite, à gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. C'est la combine à nanar. Être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout. Qui peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine à nanar. T'as porté un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter. Avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar. Elles sont partout, elles sont nulle part.
Eh bien bonsoir, toi qui m'écoutes en podcast, bienvenue dans ton podcast sport. On s'était un petit peu absenté pendant quelques semaines, quelques mois, on a un peu bronzé par-ci par-là. Mais on revient encore plus fort. Je remercie encore les auditeurs qui nous écoutent de plus en plus. Et ce soir, on est de retour, bien en forme, avec l'équipe type ce soir, Seb. Salut Seb.
Bonsoir Raphaël.
Alors l'équipe type, composée de deux joueurs, mais bon, deux piliers. On a pas mal d'absents. Comment tu vas Seb ?
Très bien, le pilier c'est pour le rugby ou c'est... Non,
c'est le pilier, t'es tout le temps là, c'est l'indétrônable, c'était le gardien, on fait une petite dédicace à Lolo,
Lolo.
Qui était quoi, un joueur de foot un peu genre box-to-box, toi t'as pas joué avec lui toi, non, t'as joué contre lui.
Contre lui j'ai pas de souvenir, mais avec lui bon, on a bien dû faire un match ou deux ensemble.
C'est le gars qui a tenté quand même d'avoir la même coupe de cheveux que Leonardo DiCaprio dans Titanic, je tiens à le dire. Et c'est un gars qui joue au foot avec des tresses. Pas avec des tresses, avec un serre-tête.
Ah oui, c'est pas pareil. Hein.
Avec un serre-tête.
Je n'imaginais pas que
tu sais, à l'époque, ils avaient tous les cheveux mi-carrés et le mec qui avait les serre-têtes, normalement, c'était un bon joueur. Alors, j'ai bien dit, normalement, c'était un bon joueur.
C'est pas plus la coupe de cheveux de DiCaprio plutôt dans Roméo et Juliette.
Alors, c'est après. Mmh. Et ouais, comme il a raté le truc, c'est parti là-dessus. On est en pleine période de Coupe du Monde de rugby pour qu'on se fixe un petit peu en termes de temporalité. Bravo Seb, petite dédicace au Moscato. Alors, on parle rapidement de Novalie. Alors Seb, tu suis un petit peu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça donne pour toi?
Donc là, au moment où on en parle, on est à la fin de la deuxième journée.
Hier soir, il y a eu Angleterre-Japon.
Ouais, Angleterre-Japon. Il y a la première surprise hier, c'était le Fidji qui a battu l'Australie.
Ouais.
Donc sans trop de surprises, on imagine assez facilement qu'il va sortir des poules. Mais ça, déjà avant les matchs, on pouvait plus ou moins s'en douter. Bon, à part un match ou deux, il y a une équipe ou deux près, ça va peut-être un petit peu tendu, mais bon. Donc ça se prépare pas trop mal. La France, pas trop mal malgré le fait que... En termes de jeu, c'est pas flamboyant, mais ça gagne. Le principal, c'est ça.
Mais en se mouillant un peu sur un jeu de petits pronos, c'est notre petit pronos. C'est quand qu'il n'y ait pas mon petit pronos au rugby? Ça existe,
non,
ça
ouais. Même en pronos sportif, hein, tu peux le faire, mais les cotes sont très basses parce qu'il y a tellement peu de surprises. Concrètement...
Champion du monde, tu devais un nom, c'est qui?
Ça va se jouer entre trois, normalement. Ça devrait se jouer entre l'Irlande, l'Afrique du Sud et la France. Malheureusement, je mettrais peut-être une petite pièce sur l'Afrique du Sud.
C'est vrai?
Ouais, comme tout le monde, j'aimerais bien que ce soit la France, hein, mais je sens qu'il va nous manquer un petit peu. C'est le quart de finale. Le quart de finale, on va jouer un des deux.
Donc, Sudaf, moi je dirais la France. Hein. Je le sens bien, moi.
Espérons.
Bon, écoute, on découvrira ça et puis celui qui gagnera, il paiera le McDo à l'autre. Hein, on fera comme ça.
Le McDo, super.
Ouais, je te fais rêver, Seb. On a une invitée ce soir qui est avec nous. Bonsoir, cher invité.
Bonsoir.
Et déjà, mais quelle voix sensuelle à l'appareil. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation au CSC.
Et merci pour le flan.
Bon, on a dit qu'on ne découvrait pas les coulisses. Sébastien, s'il te plaît, à qui j'ai préparé ce soir à manger à notre invité et qui est pour l'instant, à l'heure où on parle, encore vivante. Donc,
ça va, pour l'instant, je survis.
On la remercie. cher invité,
oui.
Je vais commencer par vous aborder par notre traditionnelle question. Cher invité, qui es-tu? On va tutoyer.
Ouais.
Que fais-tu et d'où viens-tu?
Ok, alors je m'appelle Sabine.
Bonsoir Sabine.
Bonsoir Sabine.
Je suis native des Alpes de Haute-Provence. J'ai toujours habité là. Et je suis hypnothérapeute, praticienne en hypnose intégrative. J'ai mon cabinet sur Oraison.
D'accord.
Voilà.
Donc, qui es-tu? Tu as répondu. D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, pour revenir un peu sur la question de que fais-tu, pour approfondir cette question, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Depuis combien de temps tu fais de l'hypnose?
Alors, j'ai fait une reconversion en 2019.
Oui.
Donc, j'ai mon cabinet depuis 2019 à Oraison.
D'accord.
Voilà. Avant ça, j'étais assistante de direction. Donc, rien à voir.
Oui.
Et voilà, un peu un ras-le-bol d'un peu tout. Je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle et puis j'avais envie de me tourner vers quelque chose de naturel. Donc, j'ai fait d'abord une formation, une reconversion en naturopathie qui me paraissait incomplète et pas assez suffisante pour ouvrir un cabinet. Et la vie m'a amenée à rencontrer l'hypnose, à découvrir l'hypnose, parce que je ne connaissais pas du tout. Quelqu'un de proche, en dépression, que j'ai beaucoup accompagné, a fait une séance d'hypnose. Et j'ai vu les résultats qui m'ont vraiment bluffée, quoi. Il y a eu un avant et un après la séance. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux apporter ce même bien-être et ce même mieux-être aux gens. Et du coup, voilà, je me suis renseignée sur une école. Je suis partie en formation sur Nice. Et puis voilà.
Alors, qui est une formation sur...
C'était plusieurs...
Tu valides des modules, c'est ça ce que tu m'as expliqué?
C'est ça, c'est plusieurs modules. C'était une semaine, puis 2 jours, puis 4 jours. Puis voilà, il y avait plusieurs modules en fonction après des spécialisations, etc. Il y a toujours, de toute façon, des remises à jour que je continue même à faire maintenant régulièrement, quoi.
D'accord.
Donc, parce que les techniques évoluent, parce que c'est toujours intéressant aussi de se remettre en question et de comparer un petit peu les techniques aussi.
Donc, le choix dirigé vers « je veux apporter du bien-être aux autres ».
Oui. Mais en fait, depuis toujours, en fait, ça m'est souvent arrivé de passer une soirée et les gens viennent très facilement se confier à moi. Il y a même une période de ma vie où c'était assez, assez pénible. Hein. Je ne pouvais pas faire une soirée sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me pleurer dans les bras. Donc, à un moment donné, ouais. Bon. Mais voilà, c'est une facilité que j'ai toujours eue d'être à l'écoute des gens. Et les gens se confient généralement facilement à moi. Donc, voilà, finalement, c'est un constat que je me suis fait après ma reconversion. Et c'est vrai que je me dis que finalement, c'est cohérent avec qui je suis. Et j'ai vraiment l'impression d'être à ma place aujourd'hui, quoi.
Ok. Et voilà. Utile.
Et utile parce que voilà, quand il y a des clients qui me renvoient un SMS ou que je revois pour une autre consultation et qui me remercient parce qu'ils se sentent mieux et parce que je vois qu'ils se sentent mieux, bah, c'est très flatteur, très valorisant et ça me suffit en fait.
D'accord. Alors, oui, pardon.
Oui, est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est, ne serait-ce que la naturopathie, puisque c'est par ça que tu as commencé déjà?
Oui, la naturopathie, c'est en fait tout ce qui va être autour de se soigner naturellement. Donc il y a des choses qui m'intéressaient beaucoup là-dedans, comme les huiles essentielles, les fleurs de Bac. Mais après, il y a tout un tas d'autres choses. La naturopathie, en fait, ça englobe vraiment tout ce qui va être naturel et qui peut faire du bien, hein, comme les tisanes, les plantes, l'iridologie, enfin, il y a tout un tas de choses. Mais pas tout m'intéressait et ça me paraissait tellement vaste et tellement incomplet, la formation, que... je ne me sentais pas légitime à exercer ça, en fait. Voilà.
Mais tu t'en sers quand même, là
complément.
Oui, en complément.
En complément, si certaines personnes sont ouvertes à ça, des fois, je leur conseille d'aller vers des fleurs de Bac, vers des huiles essentielles, en complément d'une séance.
Vous êtes en train de vous poser la question pourquoi une hypnothérapeute intervient dans le Culture Sport Club. Eh bien, vous savez, toute la sensibilité que j'ai au côté mental dans le sport, j'ai toujours dit que, alors, au niveau, c'est entre 60 et 70% d'une performance représentative d'un sportif de haut niveau, Mais je me suis rendu compte que même au niveau amateur, c'est la préparation mentale est de plus en plus popularisée, de plus en plus démocratisée. Et en fait, en faisant quelques recherches pour préparer ce podcast, parce que je suis avant tout un professionnel, j'ai envie de dire, un chercheur dans l'âme. C'est une pratique qui existe depuis quand même les années 70. Et la première fois que ça a été mis un peu en lumière, c'était au temps de la domination dans le domaine de la boxe de Mohamed Ali, qui a rencontré un boxeur américain qui s'appelait Ken Norton. Et en fait, si vous voulez, à l'époque, les boxeurs, mis à part Frazier et d'autres, étaient un petit peu impressionnés de rencontrer Mohamed Ali. Et ce gars-là a trouvé le biais de se dire, bon, en fait, il a un peu lancé la mouvance qui était de, pour réussir une performance sportive, il faut arriver à être détendu mais concentré. Et en faisant de la préparation mentale, il est tombé sur un hypnothérapeute. Alors ce boxeur pardon, s'appelle Ken Norton. Et figurez-vous qu'après avoir fait, alors, il avait quand même des prédispositions en boxe qui étaient assez importantes puisque c'était un professionnel, mais il a été mis en lumière parce qu'il a battu Mohamed Ali. Il lui a pété la mâchoire d'ailleurs ce soir-là. J'ai pu voir le combat, mais quelques extraits. Bon, j'y connais rien en boxe, mais voilà, où ils en parlent justement dans les interviews à la suite. Et suite à ça, même Mohamed Ali a discuté de ses techniques d'entraînement, parce que c'était quand même quelqu'un qui était avant-gardiste, Mohamed Ali, bon, avec des prédispositions plus qu'exceptionnelles de son côté, a mis en avant aussi cette pratique-là. Donc c'est une pratique très popularisée aux États-Unis, surtout tournée vers des sports individuels, André Agassi, j'ai parlé de ce boxeur-là, Mohamed Ali, Tiger Woods, les sœurs Williams l'utilisent, et même dans les sports co, un champion très connu, Michael Jordan, qui était un pratiquant d'hypnothérapie. Mais vraiment, lui, c'était un gros féru d'hypnothérapie, c'est-à-dire que c'était avant match, il arrivait presque 3-4 heures avant tout le monde et il avait une séance bien à lui, en termes de récupération, pareil. Enfin, voilà, ça a été très popularisé. Et l'équipe américaine des JO ont leur propre hypnothérapeute. J'ai parlé au pluriel. En fait, ce sont des préparateurs en préparation mentale qui ont la prédisposition en hypnothérapie. Et du coup, je me suis dit, j'ai quand même une amie praticienne en hypnothérapie. Et quand je lui ai parlé de faire le podcast, parce qu'on est très amis dans la vie, on peut le dire avec Sabine, et elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je fais des randos, je veux bien un raf, j'ai fait du vélo, bon, c'était en descente, mais quand même, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et du coup, j'ai dit, écoute, viens nous parler de ta pratique, et je pense que ça peut intéresser des personnes qui font, même en pratique... pour eux personnel en tant qu'amateur, moi je vois même j'ai pas peur de le dire, mon fils y allait parce que c'était quelqu'un d'hyper stressé les jours de match et je me sentais impuissant lui dire mais ça reste un jeu, amuse-toi, tu crains rien, enfin même si tu rates, enfin tu joues rien en fait. Et Sabine l'a reçu, elle a beaucoup aidé, où elle lui a fait des enregistrements pour qu'elle puisse se l'écouter avant un match ou autre. Et je sais que ça l'a pas mal aidé, ça l'a pas mal débloqué. Alors c'est pas comme un médicament, mais je pense qu'elle nous en parlera un petit peu après. C'est un travail de longue haleine et il faut que ça se débloque aussi dans la tête. Même chez vos enfants, même chez vous qui êtes des amateurs, ou même si vous êtes dans un cursus montant pour le domaine professionnel, je pense que c'est un domaine à ne pas louper. Et du coup, je voulais qu'on fasse parler Sabine pour qu'elle nous dise un petit peu c'est quoi l'hypnothérapie. Du coup, je commence par là.
Alors, juste pour revenir sur le sport, il y a deux actions en fait de l'hypnose dans le sport. Il y a soit donc de la préparation mentale pure pour un objectif, une compétition, pour on va dire un peu faire abstraction de la douleur, pour se dépasser, pour que le mental prenne vraiment le dessus. Et il y a aussi certains sportifs qui consultent suite à une blessure, qui peuvent du coup avoir de l'appréhension par la suite. Donc avec l'hypnose, on a cette facilité de pouvoir se débarrasser d'un traumatisme. Alors on n'efface pas la mémoire, on est bien d'accord, mais on prend de la distance avec ce qui s'est passé pour que la personne puisse de nouveau courir ou jouer, ou bref, peu importe, comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, oui. Donc ça, c'est vraiment les deux principales actions de l'hypnose dans le sport.
D'accord, voilà. On travaille sur le traumatisme. Là, en l'occurrence, la gestion émotionnelle du traumatisme pour pouvoir...
En fait, on s'en débarrasse, on s'éloigne, on prend de la distance avec ce qui s'est passé, avec l'événement, s'il y a eu un tacle au foot ou peu importe, une blessure. Ben, du coup, le joueur, il peut avoir du mal à aller au contact dans les matchs qui suivent. Donc du coup, si on prend de la distance avec ce qui s'est passé, on fait un peu comme si... un peu une abstraction de l'accident, pour que le joueur puisse de nouveau jouer comme avant, sans appréhension, sans peur.
J'avais lu une définition, enfin du moins un concept phare utilisé dans l'hypnothérapie, qui était celui de la suggestion, mais dans un état de conscience modifié.
C'est ça.
Est-ce que tu penses que...
C'est ça.
Qu'est-ce que tu rajouterais à cette définition du coup de l'hypnothérapie ? Enfin, tu rencontrais quelqu'un dans la rue, tu te dis c'est quoi l'hypnose ?
Alors déjà, c'est quelque chose de naturel, l'hypnose. On y est tous toutes les 90 minutes en moyenne sans s'en rendre compte. Ça dure parfois des microsecondes, parfois un peu plus longtemps. On connaît tous quelqu'un, on dit lui il est toujours dans la lune, il a la tête dans les nuages, il est toujours dans son monde. Bon, mais c'est quelqu'un qui se met facilement en état d'hypnose. Il y a 20% de la population comme ça qui est hyper réceptive, d'accord ? Quand on prend la voiture, qu'on conduit et qu'on se met à penser tout un tas d'autres choses et que d'un coup on se dit « je suis déjà arrivée » ou « j'ai raté l'embranchement parce que ce jour-là je devais tourner mais que j'étais perdue dans mes pensées justement », eh bien on est en état d'hypnose.
D'accord.
Voilà, donc on en reparlera peut-être plus tard, mais du coup il n'y a aucun danger à être en hypnose, enfin en état d'hypnose. On appelle ça la transe hypnotique, mais moi la transe c'est pas un mot qui me plaît bien, donc je ne l'emploie pas.
Oui.
Mais donc en état d'hypnose, on revient dès qu'il y a le moindre danger, dès qu'il y a le moindre souci, on est là, on revient. C'est un état qui est complètement naturel et d'ailleurs on y passe tous avant de s'endormir tous les soirs.
Oui, pardon.
Donc justement tu parlais de réceptivité, donc du coup tout le monde est réceptif à l'hypnose.
Tout le monde est réceptif, plus ou moins. Voilà, mais tout le monde est réceptif.
Degré, vraiment, la personne qui n'est pas du tout réceptive, mais très peu réceptive.
Ça nécessitera plus de séances, un travail plus approfondi. Mais on y arrivera aussi.
Et quand on parle d'hypnose, alors ça, je l'ai vu beaucoup passer sur des sites. Ericksonienne, pardon. C'est pas la marque de téléphone. Bon, d'un vieux téléphone. Là, malheureusement, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais.
Non, ça fait partie de ça. Ouais.
Mais
en fait, c'est la méthode la plus connue, la plus exercée.
Ouais.
D'accord. Moi, je pratique l'hypnose intégrative, qui est une hypnose qui est plus moderne, qui a une vingtaine d'années seulement.
D'accord.
Elle est plus dynamique, elle est plus directe, on va dire.
D'accord.
L'hypnose ericksonienne, les séances sont plus longues, il y a beaucoup de visualisation, il y a beaucoup d'imagination à avoir. Alors que là, dans ma méthode, je laisse peu de temps aux personnes. Dans mes suggestions, je suis très, très directive et je laisse peu de place pour que l'esprit s'évade.
D'accord. Donc là, tu vas traiter, tu reçois, enfin, du moins dans ta pratique, quels troubles traites-tu ?
Alors, ça va des addictions, tabac, alcool, téléphone,
nourriture,
jeux, etc. Le sucre, c'est une chose. Le rééquilibrage alimentaire, c'en est une autre, parce que ce n'est pas un régime. Si on réapprend à manger sain, équilibré, enfin, en tout cas, être attiré par une alimentation saine, équilibrée, manger en quantité suffisante, ressentir de nouveau la satiété.
Ouais.
Donc ça, c'est le rééquilibrage alimentaire. Il y a la dépression, les dépendances, il y a les phobies.
Ouais.
Hein, peur de l'avion, des serpents, etc. J'en fais tous les jours, mais...
Non, mais il y en a énormément. Voilà,
voilà, on peut tout traiter, quoi. On peut faire de la préparation mentale, on peut traiter un traumatisme, la gestion d'un deuil qui est douloureux, se détacher d'une personne toxique, enfin c'est tellement varié. Il faut partir du principe qu'en fait on peut tout traiter avec l'hypnose, quoi.
Tout est lié au mental de toute façon, quasiment.
C'est ça.
Donc, du coup tu peux.
C'est ça.
Le choix des possibles est immense.
Ouais. Et du coup alors comment se passe une séance d'hypnose en fait ?
Alors une séance d'hypnose c'est déjà un long échange. On va beaucoup parler. Je vais poser beaucoup de questions sur l'émotionnel. Alors je sais que c'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, mais bon, au fil de la conversation, on y arrive toujours. Donc c'est déjà, voilà, une bonne demi-heure à 45 minutes de conversation. Et la séance d'hypnose en elle-même, elle va durer entre 10 et 15 minutes, à peine.
D'accord.
Voilà. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, ça va être très court, très, très succinct. Mais voilà, et pendant cette période-là, où je vais mettre volontairement la personne en état d'hypnose. Je vais reprendre toutes les suggestions, toute la conversation qu'on a eue. Je vais relever tous les mots qui vont me sembler importants et je vais, par des techniques d'hypnose classiques. Alors, quand on est dans cet état-là de transe hypnotique, on a certaines parties du cerveau qui sont hyper réceptives et qui gèrent généralement tout ce qui est émotionnel. Donc c'est pour ça que je pose beaucoup de questions sur l'émotionnel, parce qu'après, justement, on va d'une émotion négative qu'on se débarrasse vers une émotion positive. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte.
Oui, c'est très clair.
Mais voilà, en fait, le but, c'est ça, hein, c'est se débarrasser d'un traumatisme ou d'un état émotionnel négatif pour aller vers un mieux-être. Généralement, c'est l'apaisement, la sérénité, la confiance en soi, ce genre de choses.
Mais dans la construction un peu de ta séance, tu vas relever des mots-clés.
C'est ça.
Des phrases clés, des émotions clés, c'est ça, pour pouvoir
c'est ça.
Que tu vas inclure après dans ton, dans ta séance, je veux dire purement d'hypnose.
Oui. Alors après, c'est en fonction des séances. Quand c'est la première séance, je fais pas les mêmes techniques qu'en deuxième ou en troisième séance. Enfin, j'adapte. Toutes les séances sont personnalisées de toute façon, en fonction des besoins, en fonction du vécu, du traumatisme, etc. J'adapte vraiment ma technique. C'est toujours du sur-mesure en fait. Donc c'est compliqué de donner une méthode parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment de méthode type.
Oui.
C'est vraiment appliqué à chaque fois. Mais dans le principe, on va dire que la première séance, on va se débarrasser d'un traumatisme ou d'une émotion négative. On commence à aller vers un mieux-être. Mais généralement, il faut toujours au moins une deuxième, voire une troisième séance pour approfondir. Après, le but, c'est de ne plus parler du négatif ou de ce qui s'est passé, mais d'aller vraiment dans le positif.
D'accord.
Voilà.
D'accord. J'aimerais qu'on pour éclairer un peu ta pratique, j'aimerais qu'on enlève quelques vérités ou quelques contre-vérités qui peuvent être rattachées à ton métier, Sabine. Est-ce que pour toi l'hypnose, enfin est-ce que la vérité qui dit l'hypnose c'est différent du sommeil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Ben on ne dort pas déjà en état d'hypnose.
D'accord.
Puisque je vous dis qu'on conduit la plupart du temps en étant en état d'hypnose.
D'accord.
Donc voilà. Déjà, on ne dort pas pendant une séance d'hypnose. Voilà. Même si à la télé, hein, on peut entendre les dormez.
Ouais.
Ça, c'est. Voilà. C'est qu'à la télé, c'est pour le spectacle. D'accord.
mais du coup, t'as des personnes qui s'endorment des fois en séance?
Ça m'arrive,
ouais. Ouais.
Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Mais c'est pas grave parce que le cerveau, il enregistre tout. Tant qu'on a passé la première étape de faire des exercices pour se débarrasser du négatif, il n'y a pas de souci en fait. Après, tant que je balance mes suggestions positives, la personne peut dormir, hein, le cerveau.
C'est un côté d'apaisement aussi, le
complètement.
Fait de se dormir.
Complètement, complètement. Ça me montre bien que la personne s'est complètement laissée aller. Moi, ça arrive rarement quand même.
Ouais.
Ouais.
Est-ce qu'une personne, je vais parler dans le micro moi aussi, est-ce qu'une personne durant la séance, elle est totalement inconsciente?
Non. La personne garde toutes ses facultés. En fait, on est...
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que... On va mettre les pieds dans le plat. On n'est pas dans l'hypnose mesmer. Hein.
Non.
On est sur... En fait, c'est un... Est-ce que l'hypnose intégrative, celle que tu pratiques, est-ce qu'elle est absente de manipulation? C'est ça que je veux dire.
Tout à fait.
Du genre, tu prends pas le contrôle de la personne en lui disant, au moment où je dis chaise, tu te roules par terre. Quoi. Donc,
on va expliquer le principe du spectacle aussi. En fait, l'hypnose, ça reste de l'hypnose. Qu'elle soit de spectacle ou de thérapie, ou à but thérapeutique en tout cas, ça reste de l'hypnose. Les techniques, elles sont exactement les mêmes. D'accord ? Le but n'est pas le même. Pour de la thérapie, pas besoin que la personne soit hyper réceptive, pas besoin de mettre la personne dans une transe profonde. D'accord ? Juste un bien-être pour permettre d'obtenir le résultat qu'on veut. C'est tout. Dans les spectacles, il est évident qu'ils font monter sur scène ces fameux 20% de la population hyper réceptive. Les gens, ils vont déjà assister à un spectacle d'hypnose. Ils sont déjà conditionnés à éventuellement monter sur scène. Ils sont conditionnés par plein de suggestions pendant un long moment, tout au long, on leur fait faire des tests, etc. Et ils font monter sur scène les gens les plus réceptifs, bien évidemment. Des gens qui sont à même de se ridiculiser, de faire rire tout le monde, et il n'y a rien de méchant.
Mais
en même temps, il n'y a rien de dangereux non plus. Chacun, si Mesmer leur dit vous sautez du troisième étage, ils vont pas le faire. Ils vont revenir à la réalité. Le cerveau, il se réassocie, ils sont là, ils sont de nouveau ici. Quoi.
D'accord.
On ne peut pas imposer, comme on a pu voir dans certains films ou autres, à quelqu'un, du moins qu'il y a un danger, le cerveau, il revient, quoi, il reconnecte, il est là. Mais même lors d'une séance, moi, si je vais toucher le bras de quelqu'un, vous le sentez. Si je demande d'ouvrir les yeux ou de parler, la personne est capable de parler, d'ouvrir les yeux. C'est juste qu'elle va être dans un état de tellement profonde détente que ça va lui demander un effort surhumain d'ouvrir les yeux. Mais elle pourra le faire.
D'accord.
Mais elle sera tellement bien qu'elle n'aura pas envie. C'est tout.
Ouais, parce que dans Mesmer, là, par exemple, j'ai vu un truc de fou. J'ai vu... Le gars, il lui dit, il y avait Alexandra Rosenfeld, il y avait Karine Ferry, tu l'as vu ça ? Anne Roumanoff, oula, d'un coup on tombe un peu bas, en côté beauté physique là. Et en gros, Mesmer, il dit aux trois, il dit voilà, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez tomber folle amoureuse de Michel Boujna. De maintenant, tu vois. Donc, Boujna a mort de rire, mais elle le saute complètement dessus, quoi. Donc, mais elle joue de la drague plus.
T'as pas de risque.
Tu vois, ça peut être un peu dangereux quand même.
Ouais, c'est pas...
Parce que tu passes une soirée avec Anne Roumanoff.
C'est pas un risque vital. Ouais. Quoi.
C'est pas un risque vital, il n'y a pas de danger.
Mais ça te semble. Enfin, une manipulation aussi poussée, ça te semble possible.
Oui, c'est possible. Oui, non, mais tout ce qui se passe avec Mesmer à la télé est réel. Ça se passe vraiment, quoi.
D'accord.
Voilà, maintenant, ils le savent. Ils savent qu'ils vont participer à un show télévisé, qu'ils vont faire n'importe quoi. Et puis, ils sont énormément préparés. Hein, on parlait de suggestions tout à l'heure. Ils en ont mangé des suggestions hein, avant d'arriver dans cet état-là. Ils sont préparés. Hein.
D'accord. Mais ils les préparent comment, en fait ? Ils les reçoivent avant, tu penses ?
Non, c'est tout au long. C'est de l'hypnose conversationnelle, en fait.
D'accord.
C'est qu'il y a tout un tas de suggestions qui sont glissées dans la conversation et qui s'en rendent pas compte.
T'as beaucoup de tours de magie qui sont basés là-dessus aussi, où justement tu suggères, avant de faire ton tour à la personne, des trucs en fait pour qu'ils choisissent plus tard, quand tu vas les prendre sur
une couleur
magie,
ou un nombre, tout à fait.
Un animal ou un truc comme ça. Quoi.
Oui.
Ouais, moi, il me fait halluciner. Le mec, il est en un coup, il dit oh, toi, viens là, paf, il fait faire fais le crapaud.
Même des magiciens, ils s'en servent beaucoup de ça. C'est la manipulation, mais c'est pour arriver à tes fins.
Ça aurait pu être pratique, ça, au lycée, au collège. Ouais. Enfin, bref, c'est pas grave. Pas tout le monde est Michel Boujna ou Mesmer.
Le problème, c'est que cet état-là, il dure pas non plus trop longtemps. Hein, quand tu vois Mesmer à la télé, c'est que des petits trucs qui durent quelques minutes. Ça dure jamais trop longtemps.
Mais par exemple, tu vois, je prends le gars, là, putain, le top modèle là, qui a le club de hier. Là. Enfin bref,
Rock.
qui était avec et Lagerfeld là.
Bon. Ah, Baptiste.
Ah,
ouais. Ouais. Par exemple, il y est passé. Donc lui, il avait la phobie des serpents. Donc il lui a levé un peu son spectacle.
Ouais.
Et depuis, il peut lui rouler. Enfin, il peut passer sur lui 10 serpents. Il a plus peur du tout.
Ouais,
alors qu'avant, il en voyait un à 10 mètres, il sautait par-dessus le pont, quoi. Donc.
Ouais, c'est très efficace pour les phobies. Hein.
Ouais, mais du coup, ça va dans le truc de. C'est là, malgré tout, c'est resté. Est-ce qu'il y a certains trucs qui peuvent rester ? Par exemple, je reprends mon exemple de Boujna, mais donc leur amour, leur attirance pour Boujna n'est pas restée. Et, tu vois, mais par contre, lui, la phobie des serpents est partie.
Ouais. Il faut aussi avoir la volonté qu'il y ait un changement. D'accord ?
D'accord.
On ne peut pas imposer des changements aux gens qui n'en veulent pas. Au plus la personne va avoir la volonté qu'il y ait un changement, au plus la motivation va être grande. Au plus, le résultat va être grand et rapide.
Ok, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quand même une part inconsciente qui veut, par exemple, je veux me débarrasser de la phobie du serpent.
Donc là, pour l'histoire de Boujna, ça dure quelques instants parce qu'elles sont là, elles se prêtent au jeu, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait vraiment durer dans le temps. Alors que la phobie, c'est quelque chose qui devait être assez difficile pour lui à gérer, enfin difficile, dont il avait envie de... Qui ne voudrait pas se débarrasser d'une phobie, donc voilà.
Oui. Enfin, oui, j'y crois. Enfin, alors, je peux en parler. Je dévoile rien, mais j'ai fait des séances d'hypnose avec Sabine en collectif et individuel aussi.
Oui.
Effectivement, moi, je sais pas si j'ai plus de sensibilité ou pas. Ça, j'en sais rien. Je sais juste que ça m'avait fait du bien sur certaines. Certains aspects qu'on a travaillé ensemble, j'avais fait relaxation, j'ai fait confiance en soi, je crois. Alors, j'avais pas eu les mêmes. Ça, en fait, ça dépendait du moment. Je sais pas si c'était moi, mon état de conscience.
Alors,
ou pas.
Il y a ça aussi. Hein. Il faut. D'un jour à l'autre, on va pas forcément être dans les meilleures conditions pour le faire. Il y a des jours où c'est comme l'auto-hypnose. Il y a des fois où ça va être facile, on va y arriver facilement. Et puis, il y a des fois où ça sera un peu plus compliqué. Peut-être que des fois, c'est parce qu'aussi le sujet est plus compliqué. Peut-être que. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, en fait. C'est...
Ouais, mais du coup, j'étais des fois parti très loin. Mmh. Alors, en étant toujours connecté à ta voix. Alors, j'arrivais mieux à me plonger, c'est vrai, quand on a un casque.
Oui.
Que voilà, c'était encore
parce
bien plus immersif.
Parce que les séances individuelles, elles sont faites avec un casque.
Ah oui, pardon.
La résonance qui fait ça.
C'est ça. Mais en fait, il y a l'effet d'isolation, mmh. déjà. Ça isole un peu du bruit extérieur. Je passe un petit peu de musique dedans pour se permettre de se détendre plus facilement. Et du coup, il y a ma voix dans le casque, vraiment dans les oreilles. Il y a pas de... c'est là, on peut avoir l'impression que je chuchote vraiment à l'oreille, quoi. C'est un peu du bourrage crâne, quoi.
La voix, ça fait quoi? Ça fait 90-95% de hypnose, même 100% peut-être, pour la technique, c'est ça?
C'est ça.
C'est que tu le travailles?
C'est qu'à la voix.
Alors non, mais quand je fais mes séances, je pose ma voix différemment que quand je parle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fin de journée, comme ce soir, j'ai la voix cassée. Mais c'est inconscient, hein. Je l'ai toujours fait sans le calculer. Je pose ma voix, j'ai une voix qui est plus grave, plus assise, et je force énormément sur les cordes vocales.
Tu vas plus dans des tons plus bas, plus graves.
C'est ça. C'est ça.
Mais des fois, tu insistes aussi sur
des mots.
Sur des voyelles, sur des mots. Ouais.
Sur des mots, puis il y a des petits bruits, il y a des petits... Oui. Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets quand même.
Non.
Demain, on ouvre un cabinet à Horizon.
Ouais, non, parce que vous allez faire concurrence après.
Mais donc, parmi les contre-vérités ou les vérités qu'il y a, donc c'est une pratique non dangereuse.
Complètement. C'est naturel. Plus naturel, il n'y a pas.
Oui, c'est vraiment... Alors, ça part quand même d'une volonté de la personne de vouloir changer quelque chose.
Tout à fait.
Quelqu'un qui passe dans la rue... je prends l'exemple du tabac, par exemple. On a notre... Greg, qui est passé par tes mains pour pouvoir... par ta voix, surtout, pour pouvoir arrêter le tabac, ce qui a très, très bien fonctionné. Mais tu as des fois des personnes qui sont arrivées en séance, je crois qu'on en a tu me l'as partagé, ça, qui sont arrivées un peu mi-figue, mi-raisin, en se disant « Bon, qu'est-ce que je fais? Ça va passer? Ça va pas passer ?» Allez, on m'a parlé de ça au repas de dimanche, là, j'y suis allé, mais vraiment parce qu'on m'a dit d'y aller, quoi.
Ça m'est arrivé encore récemment. La personne me dit « Bah, j'étais là en avance. Je suis allé au tabac, j'ai acheté deux paquets avant de venir. Si vous conditionnez votre cerveau au fait que vous allez avoir des cigarettes et que vous allez pouvoir refumer. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, je préfère ne pas faire la séance, quoi, clairement. Parce que je sais qu'on est voué à l'échec.
Oui, il faut qu'il y ait une démarche de dire « je veux guérir ».
Tout à fait, il faut en avoir envie. Après, je sais que je vais être... j'ai l'habitude de dire que je vais être le coup de pouce qui va aider à faire en sorte que ce soit plus facile. Parce que, vu que je travaille sur les émotions, on va se détacher émotionnellement de la cigarette, de tout ce qu'elle représente. On va aller vers de l'indifférence. Voilà.
D'accord.
L'indifférence, c'est pas d'envie, pas de besoin, etc. D'accord. Après, il y a d'autres, choses qui rentrent en compte. Mais voilà, la volonté est déterminante dans le résultat. Donc, quand on va acheter un paquet de cigarettes juste avant de venir me voir, au lieu d'avoir 90% de chances de ne plus fumer, on a 90% de chances de refumer.
Est-ce que l'hypnose peut permettre de gagner en mémoire?
En concentration. Mais pas forcément en mémoire.
Pas en mémoire, ok.
Peut-être par d'autres choses qui découlent de la mémoire, mais non, c'est pas...
Alors, moi, j'ai eu fait... Alors, pas avec toi, c'était il y a très longtemps, j'avais fait de l'hypnose parce que j'avais la phobie des opérations. Et
mathématiques ou
les additions
et j'étais surpris au bout de 32 minutes j'ai pas eu une seule blague pas une blague, ce soir on est en hypnose, le mec il est hypnotisé
en fait, au repas tout à l'heure on nous a dit pas de blague moisie, pas de mangue. Sauf qu'elle a dit qu'au bout d'un certain temps l'esprit reprenait le dessus.
C'est vrai que des fois elle faisait passer des messages lumineux. Il n'y aura pas de blague moisie ce soir. Bon, sinon tu peux me passer le sac s'il te plaît, voilà, tranquille.
Je pensais avoir été discrète.
Non, tu t'es fait gauler, on les a vus tes secrets.
Je te coupe d'ailleurs là-dessus. Justement, donc, est-ce que quand tu es hors taf, que tu as discuté avec des gens que tu ne connais pas ou machin, t'as justement ton taf qui te, des fois qui revient ou pas du tout?
Pas du tout.
En disant tel mot-clé que la personne a utilisé ou tel...
Pas du tout. Non, non. J'en parle pas, d'ailleurs.
Non, mais même...
J'en parle... Il y a des... Si, bon, j'en connais qui parlent que de ça, en permanence, qui sont en train de psychanalyser un peu tout le monde, parce qu'il y a quand même un côté un peu psy dans l'histoire, hein, malgré tout. Mais non, non, moi, pas du tout.
T'arrives à chaque fois...
Ah ouais.
C'est bon.
Ouais, je fais bien la part des choses.
Ben... Je comptais en parler un peu après, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Seb. Il n'y a pas de la fatigue mentale quand même en bout de journée, parce que tu dois être malgré tout très concentré sur le patient, ses émotions, sur quel mot je vais utiliser. Tu dois poser ta voix, donc il y a un travail de concentration. Toi aussi que tu as derrière en tant que praticienne, donc il n'y a pas de la fatigue mentale en fin
mais
de journée.
Je me limite hein, en nombre de séances par jour. Parce que je sais que ça me demande énormément de concentration. Il y a déjà la concentration d'écoute, parce que c'est hyper attentif pour être vraiment à l'écoute et attentif à... Il y a la gestuelle, il y a la posture, il y a les mots, il y a les émotions que je vais voir apparaître, sur quel point il va falloir que je rebondisse, parce que je vais sentir qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins sensibles que d'autres. Donc ça me demande énormément de concentration. Et après, pendant que je suis en séance... Ben, c'est 10-15 minutes qui sont hyper intenses pour moi parce que je suis vraiment très concentrée et je me mets en semi-hypnose moi pour être vraiment dans ma bulle aussi et d'être très concentrée. Donc quand j'enchaîne 4-5 rendez-vous, je suis vidée après quoi.
Ouais.
Donc je peux pas me faire des journées trop longues non plus quoi. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the Tu l'as abordé un tout petit peu. Tu te fais de l'auto-hypnose quelque part. Est-ce que tu fais de l'auto-hypnose? Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement de l'auto-hypnose? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'auto-hypnose, c'est très compliqué. Parce qu'on va demander de se détendre complètement, de vider l'esprit et de se donner des suggestions. Donc, de se parler intérieurement, de s'envoyer des suggestions. Donc c'est très compliqué. C'est un exercice qui est extrêmement compliqué et même moi, j'ai arrêté d'essayer.
D'accord.
Il y a des jours, on y arrive plus facilement que d'autres. Mais non, moi, même si j'ai besoin, je me fais un audio, je m'enregistre et je me réécoute. Alors c'est compliqué d'entendre ma voix, mais,
oui.
Mais je m'écoute.
Oui, tu parles à des convaincus. Mais
c'est plus facile que l'auto-hypnose. Alors ce que je conseille maintenant à mes clients, c'est... de retrouver, de se rappeler une image ou une sensation de la séance pour faire revenir les sensations dans le corps et que du coup, inconsciemment, ça renvoie le message au cerveau et ça rappelle tout ça, ça fait un rappel et ça continue de travailler. Plus le ressenti du corps physique que se parler, parce que se parler, c'est compliqué sans penser à autre chose, quoi.
Est-ce que c'est une connerie de dire que l'auto-hypnose, ça peut être comme de l'auto-méditation ? Ou de l'hypnose, ça te met... c'est un peu de la méditation aussi ?
On est un peu dans le même état. Hein,
la frontière est fine ?
Elle
ou...
est très fine. D'accord. Elle est très fine parce que la méditation, le but, il va être de se vider l'esprit, de se concentrer sur sa respiration, sur vraiment un vide complet et total qui est nécessaire pour l'hypnose après. Donc, les personnes qui sont habituées à faire de la méditation ou ce genre d'exercice de respiration, de yoga, etc., sont des très, très bons sujets pour l'hypnose. Parce que du coup, le travail se fait très vite. Ils se mettent très rapidement dans cet état hypnotique. C'est super pour moi, ça.
Bah oui, quand tu ressens ça,
ça va super
ça
vite.
Fait du boulot, hein.
Et du coup, le travail se fait super vite. En une ou deux séances, on fait un travail de fou.
Mais ils te le disent ou tu le ressens ?
Certains me le disent et puis d'autres, je le vois, je leur en parle après, je leur demande, je leur pose la question. Vous avez l'habitude de méditer ou soit c'est oui, soit c'est non. Bon, vous êtes très réceptifs, alors c'est, n'allez pas à un spectacle. En tout cas, ne vous mettez pas au premier rang, vous montez sur scène, c'est sûr.
Enfin, si à un moment donné, il est à l'étage et que tu lui dis penchez-vous un peu, t'as un gars qui tombe, qui te dit ah ben non, mais fallait vous mettre devant, monsieur. Ouais, mais mon hypnothérapeute m'a dit de me mettre derrière. Hein. Bah, vous c'est êtes ça. Mort. Dommage. Parmi les autres vérités ou contre-vérités, en fait, c'est un jeu de vrai ou faux, là. Hein.
Ouais,
est-ce que l'hypnose permet de revivre des événements traumatiques vécus durant l'enfance pour pouvoir mieux les digérer ? Je la refais, celle-là, ou tu l'as ?
Non, je l'ai. je l'ai. Oui, bah, c'est le but de se débarrasser d'un traumatisme, en fait. D'accord ? Quand on s'en rappelle, c'est une chose, on revit la situation, l'événement, pour justement pouvoir s'en débarrasser, prendre de la distance, et alors, pas à 100% vivre comme si cet événement n'était jamais arrivé, mais en tout cas, vivre au mieux avec cet événement-là, quoi. Prendre de la distance avec. Par contre, si la question était un traumatisme dont on ne se souvient pas, c'est plus complexe. C'est plus complexe d'arriver à faire revenir quelqu'un qui va venir et qui a une problématique et qui me dit bah, « il y a peut-être un trauma d'enfance, mais je ne sais pas, etc. » C'est beaucoup plus complexe et là, c'est pas vraiment... c'est moins mon domaine, on va dire.
Dans ce que j'entends, en gros, tu permets pas de revivre l'événement en lui-même, puisque c'est la personne qui te l'évoque dans son récit, mais toi, tu vas faciliter...
Je vais l'évoquer pendant la séance, si c'est ta question.
Oui,
je
mais
vais
tu vas juste l'évoquer, mais pas lui faire revivre. Tu vas juste le dire, voilà.
Plus ou moins quand même. Ouais. Parce que je vais quand même lui demander de s'en débarrasser. Il y a différentes techniques pour se débarrasser d'un traumatisme. Enfin, en tout cas, s'en éloigner. Donc forcément, je vais lui remémorer des choses. Il y a des images ou des mots ou il y a des odeurs. Il y a peut-être des choses qui vont revenir à la personne. Donc c'est souvent là qu'il y a des pleurs. Ah. Je fais beaucoup pleurer les gens.
La question, peut-être aussi que tu veux le mettre là-dedans dans les on-dit, c'est tu vois souvent, tu es dans les séries ou quoi, tu sais, quand tu as un meurtre ou quelque chose comme ça, où justement la personne est témoin, donc elle n'a pas forcément un traumatisme, elle peut en avoir un ou pas,
oui.
Mais où justement ils cherchent en fait des éléments juste en faisant se replonger dans la situation.
Alors oui, là tu vas te remettre en situation du coup. Tu fais un peu revivre la situation pour que la personne elle se refocalise sur les sensations qu'elle a ressenties, ce qu'elle a pu voir, etc. Donc effectivement, sous hypnose, il y a des souvenirs qui peuvent revenir. Mais c'est très aléatoire et c'est pas forcément vérifiable.
Par rapport au domaine sportif, donc... pour les sportifs qui nous entendent ou que tu as déjà reçu, je ne sais pas si tu en as déjà reçu.
Oui.
Alors, sans évoquer forcément de nom, quel type de séance tu as fait ?
Alors, j'ai eu un ado justement qui s'était blessé au foot, donc suite à une blessure, moi je parlais tout à l'heure, se débarrasser du trauma et pouvoir rejouer. J'ai eu une cliente qui faisait des rallyes automobiles et qui avait eu une sortie de route en rallye et qui du coup avait de l'appréhension à rentrer dans la voiture. Et j'ai eu de la préparation mentale pour un marathon.
D'accord. Alors, quand tu dis préparation mentale, c'est arriver à être concentré pour le faire ou à visualiser la réussite ?
Alors, je t'avoue que ça remonte assez loin. Je ne me rappelle plus vraiment de tous les détails de la séance, mais il y en avait eu deux. Hein. C'était déjà la motivation à être assidu à l'entraînement, etc., passer outre la douleur, etc. Et il y a eu vraiment une séance de préparation où je fais vivre la journée à la personne avec tous les conditions météo possibles, inimaginables, enfin tout ce qui peut arriver et qui pourrait déstabiliser la personne. La pluie, la grêle, la soif, la douleur, ce genre de choses pour arriver à passer outre et d'être focus sur la ligne d'arrivée, quoi.
Oui, donc c'est de la visualisation quelque part. Oui, non, oui. C'est la visualisation.
C'est de la préparation mentale.
J'allais te demander, est-ce que c'est la visualisation donc tu réponds un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de sportifs. Ça, moi, je vois même en tant qu'amateur, pour m'intéresser au sujet. Mais c'est vrai que la visualisation est quelque chose qui revient très souvent. C'est-à-dire, mettez-vous en posture et en visu de réussite et pour favoriser aussi votre corps vers un élan positif, en gros. Donc,
En fait, en gros, on essaye d'envisager tout ce qui peut arriver et qui peut venir perturber la course. Là, en l'occurrence, c'était pour une course. Donc... pour aller, en fait, que la volonté, que la motivation soit focus sur l'arrivée, en fait.
D'accord. Alors, moi, je reviens sur mon exemple. Tu m'as coupé mon anecdote sur... je voulais parler de mon opération, merde. En plus, c'était totalement bénin, mais c'est vrai que... Mais le stress allait... Alors, je ne dis pas que ça irait pas. Hein. Ça fait longtemps que je me suis fait opérer, et j'espère ne pas me faire opérer de suite. Mais le stress a allé à ce que je n'en dormais plus pendant au moins un mois ou deux avant l'opération, au point d'aller à me dire, eh ben ça, tu vas le revivre, c'est la dernière fois que tu le revis avant de te faire opérer. Enfin, je veux dire, ça allait...
Je ne vais pas me réveiller.
Ça allait jusque-là. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est l'idée de partir. Et c'est surtout que j'ai eu une opération des dents et j'ai eu un très mauvais réveil parce que j'étais stressé avant. Il m'avait shooté avant. Je crois que j'étais... quand je suis parti, j'étais en Charlotte, je rigolais tout ce que j'avais. Mais par contre, quand je me suis réveillé, bon, en plus, les dents, t'en as partout dans la bouche. Et en plus, j'avais une nausée. Je crois que j'allais tomber du lit à tout moment. Et pour la première fois au genou, pareil, très très mauvais réveil. Et la deuxième fois quand j'y suis allé, parce que j'ai eu un kyste qui est apparu au genou, donc on va parler de mon état physique. Je me dévoile à vous, chers auditeurs. Et donc du coup, là, j'étais allé voir une hypnothérapeute qui n'exerce plus, mais c'était il y a très longtemps. Et elle, clairement, elle m'avait fait, pour prendre ce que tu disais, revivre, elle m'avait fait vivre la journée de l'opération, les moments au moment où j'allais descendre au bloc de l'opération. Et c'est fou, à partir du moment où j'étais dans le lit, mais alors je peux vous le dire parce que c'est un grand stressé qui vous parle, à partir du moment où j'étais dans le lit, j'étais là mais pas là en même temps. Et je me suis endormi assez naturellement, je ne me suis pas vu partir. Le réveil n'a pas été non plus top, mais moins pire que les autres fois. Et quand je suis sorti dans la journée et j'ai pu me lever assez rapidement, alors que les autres fois ça avait vraiment très compliqué, de la nausée, tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc,
peut-être que du coup l'anesthésie a été moins forte aussi, du coup, vu que t'étais plus calme aussi.
Oui, voilà, j'ai mieux digéré l'anesthésie, Mais pourtant le temps d'opération était la même. Ouais.
Moi je l'aurais traité dans le sens de déjà me débarrasser des premières opérations, des premiers stress et des premiers post-opérations.
Oui. Bon. Ouais. oui.
Pardon, c'est tard.
Des traumas post-opératoires.
Voilà. Et du coup aussi, oui, voilà, la préparation mentale. Comment on peut le faire pour quelqu'un qui a un accident de voiture et qui veut reconduire, etc. Il y a deux choses. Il y a se débarrasser du trauma et après aller vers le positif. C'est justement un peu de la préparation mentale pour certains cas. Et en l'occurrence, toi, ça en était. Ouais. Elle t'a conditionné à ce que cette journée à l'hôpital se passe au mieux.
Tout à l'heure, je change de sujet, mais tout à l'heure, tu parlais de différents états hypnotiques. Tu as parlé de l'hypnose profonde, tu as parlé du trans-hypnose. C'est quoi? On est dans une gay pride, là? Qu'est-ce qui se passe, Sabine? Non, est-ce qu'il y a différents états hypnotiques? Ou est-ce que là, c'est pareil, c'est un préjugé?
Il y a différentes profondeurs, mais c'est pas palpable une fois de plus, quoi. C'est pareil, les gens qui vont faire de la méditation, ce genre de choses, ils vont se laisser aller très profondément. Et d'autres, moins. Mais c'est pas gênant. Pour de la thérapie, une transe classique, basique, suffit. Y a pas besoin. Et par contre, pour aller faire le couillon avec Mesmer, là, il faut...
Il faut avoir cette disposition-là.
Il faut être prédisposé.
Donc, en résumé, pour clore sur qu'est-ce que c'est l'hypnose, une séance d'hypnose, du moins, ça se passe de la manière suivante. Si je peux le résumer, tu me coupes si je me trompe, Sabine. Déjà, avoir envie d'y aller, je pense que c'est un incontournable.
Oui. Celui qui vient pour arrêter de fumer parce que sa femme lui casse les pieds, si c'est juste pour y faire plaisir, ça va tenir 2-3 jours, voire 15, et puis il va refumer. Donc, c'est pas la peine.
Voilà. ça passe par une phase de discussion très importante.
C'est ça.
Après une séance pure où tu vas reprendre des éléments que t'as donné la personne, Et au revoir, merci. Ou voir deux séances, trois séances. Ça, de toute façon, tu le dis auparavant, ouais. Suivant l'état que tu viens traiter.
C'est ça. Il y en a généralement minimum deux. Et en fonction de ce qui se dit à la deuxième séance, on voit s'il y en a une troisième ou pas. Parce qu'on peut être surpris, hein, des fois, se dire... ça m'est arrivé des fois de me dire, oh là, ça, ça va au moins nécessiter 3-4 séances. Puis en fait, en deux, ça se faisait. Voilà, c'est en fonction de la réceptivité, en fonction de la volonté de la personne. Il y a tellement de facteurs qui rentrent
en compte. Tu vas dire, par exemple, au début, tu avais prévu 4, tu dis non, je pense qu'au bout de 2, c'est terminé pour vous.
Ah ben la deuxième, j'ai dit, ben, on n'a plus besoin de se voir, tant mieux pour vous, tant mieux, enfin, voilà.
Je ne pense pas que ce soit le cas de tous les praticiens, ça. Hein. bref, tu peux nous faire un tout petit laus. C'est quoi le lâcher prise? Parce que je pense que c'est quelque chose qui revient très souvent dans le. Alors, lâcher prise, c'est
chacun
pas après une soirée.
Chacun a sa définition du lâcher prise. Hein.
C'est pas après une soirée flageolée. Soyons clairs, Sébastien,
c'est
je te vois me regarder.
Non, c'est classe.
Voilà. Je préfère autant qu'on le dise. Au moins, on évacue le sujet.
Ça, c'est
si fait. On peut utiliser le verbe évacuer à ce moment-là. Mais donc, le lâcher prise, c'est quoi, Sabine?
Alors, chacun sa propre définition. En fait, c'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai besoin de lâcher prise, je dis bah, c'est quoi pour vous le lâcher prise? Parce que vu que je vais réutiliser les mots de la personne, il faut que ça résonne dans la personne, en fait. Donc, ce que moi, j'en pense du lâcher prise, finalement, ça n'a pas grande importance. C'est qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre vous, en fait, le lâcher prise. On
D'accord.
a tous une définition différente. Moi, si je devais donner la mienne, le lâcher prise, c'est ne pas s'encombrer de ce qui est facultatif. Des fois, on se prend la tête pour des choses qui sont inutiles. Lâcher prise, pour moi, c'est ça. C'est lâcher sur tout ce qui va nous encombrer, nous gêner, et finalement, plus nous faire perdre de l'énergie et du temps pour rien, quoi. Voilà. Après, pour certains, le lâcher prise, c'est se mettre en danger. Chacun sa définition.
Oui. Alors moi, c'est vrai que j'aurais plutôt dit, je sais pas ce que t'en penses toi, Seb, mais moi j'aurais plutôt dit c'est un état de détente profonde, tu vois. C'est une définition quelque peu différente de la tienne, mais c'est vraiment un état de je suis plus là et là en même temps, mais sans le poids du quotidien ou les fardeaux du passé ou
surtout,
je ne sais
voilà,
quoi.
Surtout voilà, la charge mentale, le...
tout en se confiant limite à quelqu'un quoi. Le lâcher prise aussi, je le vois comme ça, c'est tu vas te confier à quelqu'un et tu lâches tout.
Ouais.
Tu vois, on a tous une définition
ouais,
différente.
C'est ça.
Hein.
On est tous les trois à table et on a une définition différente. Ouais. Du moins, des connivences ou des divergences. Ouais.
C'est pour ça qu'on a, voilà, on a tous, par rapport à notre expérience, à notre vécu, une définition différente. C'est pour ça que, voilà, quand on vient me voir, des fois, pour du lâcher prise, pour quelqu'un qui va être dans le contrôle excessif de tout, je vais dire, bon, ben, en même temps, si d'une journée, l'aspirateur n'est pas passé chez vous, c'est bon. C'est pas la fin du monde non plus. Voilà, certains vont lâcher prise là-dessus. D'autres vont lâcher prise peut-être sur le travail, en laissant couler un petit peu les réflexions, les... Voilà, chacun, sa définition.
T'as déjà fait de l'hypnose, toi?
Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse quand même pas mal, notamment parce que je me suis beaucoup intéressé... Bon, ça n'a pas de rapport, mais je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était magie, tout ça. Après même avec le judo c'est vrai que
manipuler les gens pour faire croire que
non,
t'as trouvé le valet de cœur dans les mains
parce que souvent dans les spectacles et tout tu vas avoir des personnes qui vont partir sur autre chose. Alors, ça a rien à voir et tout, mais c'est vrai que le côté très relaxation c'est un truc qui m'intéresse beaucoup justement. Moi il y a un truc où je sais que des fois je me sens très relax justement sur des sons de voix, tu vois, quand on parlait de voix vachement basse, justement tu te sens vachement apaisé quand tu l'entends. Et justement au judo c'est un truc de temps en temps qu'on a après des grosses séances d'entraînement où donc bon, déjà t'es vidé physiquement, donc ça tu vas être je pense assez réceptif à pouvoir être à te relâcher justement et faire un lâcher prise aussi, où justement après t'as le prof qui passe et qui parle très doucement, c'est beaucoup plus vers la méditation,
c'est plus sophrologie.
Ouais,
plus la sophrologie c'est quand je fais des séances de relaxation, c'est plus axé sophrologie. Mais
parce que pareil, justement, tu vas te retrouver à te concentrer sur la respiration. Moi, justement, donc c'est un truc qui m'intéresse. Après, je me pose toujours la question, me dire, moi, j'ai tendance à vite, quand je fais rien, à penser à plein de 10 millions de trucs en même temps. Donc, c'est ça que je me suis toujours demandé, est-ce que j'étais réceptif à ça, en me disant, je vais tellement penser à 10 000 trucs
non,
sur un silence.
Les moines bouddhistes, ils font 40 ans de méditation avant de se vider l'esprit,
ouais,
c'est normal. Et c'est pour ça que, du coup, moi, pendant mes séances, en fait, je débite. Je fais que parler. Pour pas laisser trop de temps à l'imagination de justement de se faire perturber en fait.
Ça c'est le souci que j'ai toujours eu, moi c'est que je parle.
Ah, ouais,
et c'est en ça l'évolution de la technique donc, que je pratique. Après, chacun est libre, chacun est libre de préférer l'une ou l'autre. Hein. Mais l'hypnose ericksonienne, c'est des séances qui vont durer vachement plus longtemps. Elles peuvent durer des fois une heure et demie, les séances d'hypnose. Oh. Donc là, l'esprit, on demande à ressentir des couleurs, des odeurs, des machins. Après, il y en a certains à qui ça convient. Hein. Moi, je sais que je perds beaucoup l'attention si ça dure. Quoi. Et donc, cette méthode plus dynamique et plus directe, elle me correspond mieux, déjà en tant que personne. Et
en termes d'énergie aussi, quoi. C'est
ça.
Ah oui, quand même, ouais. Une heure et demie.
Ouais.
Mais c'est vrai que, pour avoir fait des séances avec toi, en fait, déjà, il se passe du temps. Après, on ne voit pas la séance passer, hein, forcément.
Le temps est élastique quand on est en état d'hypnose. On a. Quand on réouvre les yeux, si je pose la question combien de temps ça a duré, ben, on a peut-être l'impression que ça a duré que 2 minutes ou au contraire une demi-heure. Enfin, le temps est très très élastique, c'est pas palpable.
Ouais, enfin vraiment.
C'est vrai que moi, après pour revenir à ça, genre, c'est un truc aussi moi qui m'aurait vachement intéressé à faire et tout, même à l'époque où je faisais encore pas mal de sport, pour plein d'axes différents, parce que c'est vrai que je sais que sur plein de trucs ça m'aurait été utile pour de la confiance en soi, justement, avoir une compétition, avoir un match ou quoi que ce soit. On te dire, fait, te mettre en condition. Parce que c'est vrai que le côté confiance en soi, donc bon, esprit, tout ça, alors, je vais prendre par exemple pour le match de foot, où les premiers gestes vont dicter en fait le match que tu vas faire souvent.
Ouais.
Et c'est vrai que rien qu'avec une bonne concentration mentale, une confiance et tout, c'est.
Ah ben, dans le monde du sport, c'est faible. Hein. C'est faible parce que. Je reprends ton exemple, moi des fois c'était même à l'échauffement. Hein. Des fois j'arrive à l'échauffement, tu vas faire 3 passes d'un coup, ça part n'importe où, tu dis oh là là, là ça va être compliqué aujourd'hui. Et
en
même
fait,
si
c'est
pas qu'on va pas
être compliqué, mental. C'est si d'entrée c'est tu te conditionnes à dire purée, ouais, ça va pas le faire aujourd'hui et tout, mais en fait tu mets toutes tes chances de ton côté pour que ça le fasse pas du tout.
Ouais.
Tu vois et on le voit, hein, les All Black, le haka, c'est déjà de l'intimidation, mais c'est quelque part aussi du conditionnement mental. Quoi. C'est de l'intimidation, c'est pour montrer aux autres on est là en effort parce qu'ils se persuadent eux-mêmes que ça.
Tu mets la motivation en plus.
Voilà, c'est ça. C'est.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Surtout dans les sports individuels, parce qu'ils sont seuls.
Les sports co, ça se fait de plus en plus.
Oui, oui, non, mais je veux dire, ils sont seuls face à eux-mêmes, ils ont leur entraîneur, bon, des fois qui n'est pas là, forcément. Ouais. Tu vois, je reprends l'exemple du judo, Teddy Riner, il a un staff, il a une psy, il a une hypnothérapeute, enfin, il a tout. Hein. La psy, elle vient même lui parler juste avant un match, où il évacue tout, après le match, quand il a perdu ou gagné, où il évacue tout. Enfin, vraiment, c'est. Enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est indispensable aujourd'hui.
On a pris conscience que le mental. A une grande importance en fait dans le résultat, dans la performance, dans tout. Hein.
On va arriver vers la fin de ce podcast. Sabine, encore quelques minutes à tenir, s'il te plaît, avant de nous plonger dans un état
avant
hypnotique.
Avant de avoir de voix.
On est déjà en hypnose.
on va reparler un petit peu de toi. Tu peux nous évoquer, je ne sais pas, une réussite dans ton métier. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais... pour toi, quand tu as réussi à accompagner une personne ou autre, c'est quoi pour toi en fait la finalité quand tu te dis ah là, je suis fier de moi, j'ai réussi à faire mon job en fait. Alors, c'est une participation, on a bien compris.
Oui.
Mais quand toi, tu
as. Oui, parce que c'est la personne en face de moi qui fait le travail. Et moi, je vais être un peu comme un GPS.
Aussi,
je leur dis, hein, je suis un GPS. Moi, je vous dis de prendre tel chemin et de faire cet exercice-là. Puis après, si vous ne faites pas, c'est. Voilà. Mais voilà, j'accompagne en tout cas. C'est un travail qui se fait à deux. J'en ai plein. Ça fait pas trop prétentieux de dire ça. Mais
non, mais ça fait un peu lien avec une question que je pose après, que je pose tout le temps dans le podcast. Par exemple, je file une baguette magique dans ta pratique d'hypnothérapeute.
Ouais.
Et je te dis, je te donne la possibilité de revivre une séance. Alors, sans nommer personne, bien évidemment, mais ça serait quoi?
Une dame qui est venue me voir et qui avait vécu une enfance terrible, très, très, très dure. Et elle se prenait en main à 70 ans.
Magnifique ça.
Et voilà, il est jamais trop tard pour prendre soin de soi en fait. Mais cette femme, elle avait une vie, rien d'en reparler, ça m'émeut parce que très 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 dur et très compliqué. Et je lui ai apporté un peu plus de légèreté. Et...
Ouais, sur
y a
une,
rien que ça, c'est
sur une période plutôt vers fin de vie malheureusement. Hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais disons d'arriver à alléger quelqu'un peut-être d'un poids qu'elle traîne depuis je sais pas combien de temps.
C'est ça, avec une enfance.
Ouais, très compliqué.
Dans les pires films, on voit pas ça. Donc, non, c'est horrible. Donc voilà, cette dame, je l'ai vue 4-5 fois et elle allait mieux.
Ouais.
Voilà, donc c'est...
T'es ressorti de là presque te dire j'ai fait le bon choix de ce métier quelque part.
Ah ouais, non, mais c'est clair. Et puis quand de temps en temps, il y en a qui jouent au jeu, qui m'envoient un SMS, même pendant le confinement, j'ai une dame avec qui j'avais fait un rééquilibrage alimentaire avant, et elle m'avait envoyé un petit message en me marquant « Sabine, c'est fou, j'ai fait les courses, bon, il n'y a plus de papier toilette, etc. » Elle me dit « J'ai même acheté des haricots, j'ai même oublié de passer par le rayon des tablettes de chocolat, quoi. » Elle était « mes collègues au travail ne me reconnaissent pas, je mange des haricots, je mange des légumes, alors que c'est quelqu'un qui ne mangeait pas du tout de légumes verts. Tout ce qui était vert, elle ne mangeait pas. » Donc voilà, ce genre de petits messages, c'est satisfaisant, ça fait plaisir et c'est gentil à eux de prendre le temps de m'envoyer ce genre de messages.
Toujours gratifiant.
Et c'est, ouais, c'est valorisant, ça fait du bien, quoi.
Oui, ça fait pas de mal. Vers quoi tu aimerais évoluer ? Est-ce que tu veux rester dans cette pratique-là ou tu as déjà une perspective d'évoluer vers d'autres techniques ?
Alors, je me rends compte que ma technique a énormément évolué, en fait. Hein. Je me suis fait ma propre technique. J'ai suivi un peu des formations en ligne depuis, j'ai vu d'autres choses. J'ai pas d'objectif précis. J'évolue tout le temps et c'est souvent avec le recul que des fois je me dis « Ah, cette technique, il y a un moment que je la fais plus. » Ouais, en fait, parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué. Quelque chose qui me plaît de plus en plus, c'est les séances collectives que je fais que depuis un an.
Oui.
Ça, il y a un échange, un partage... quelque chose d'assez puissant émotionnel, quoi. Émotionnellement, pardon.
Là, les séances collectives, à ton cabinet, ou t'en fais aussi en extérieur
Alors, avant, je les faisais en extérieur.
Ouais.
Bon, j'ai plus le lieu. Il a été démonté et vendu. Non, du coup, maintenant, je les fais au cabinet. Je suis réduit en nombre de personnes. C'est ça qui est dommage. Mais c'est des petits comités, c'est des petits groupes, c'est bien sympa. On passe de bons moments d'échange.
Ah, je suis inscrit, pas régulièrement, mais je suis inscrit
à
quelques-unes. Bon, je suis pas le seul mec quasiment. C'est une pratique...
Alors j'en ai eu 3 ou 4 en tout. Ouais. Mais oui, effectivement, je crois qu'une seule fois, il y en avait un autre avec toi.
Hein, ils sont timides, les hommes, dans cette pratique-là.
Après, je n'ai pas encore attaqué, mais en projet futur, je vais travailler avec le couvent des Minimes à Man.
D'accord.
En intervenant extérieur.
Alors, j'allais... ça, je le savais, mais j'avais le bruit des coulisses, moi. Mais je voulais te parler de où est-ce qu'on peut te trouver. Sabine, donc, tu es... ton cabinet, tu veux bien le dire.
Et à Oraison.
Et à Oraison. Sur les réseaux sociaux, on peut te joindre où ?
Alors, sur Instagram, sur Facebook, c'est Bien-être au naturel.
Bien-être
au
naturel.
Le mieux est de taper Sabine Escambre sur Google. Il y a ma fiche, il y a mon site, il y a tout qui tombe et qui est là.
Elle est présente en termes de réseaux sociaux. Et puis, chers auditeurs, ne vous gênez pas à venir également. Vous m'envoyez des fois quelques messages à venir nous consulter et je vous dirigerai... très volontiers vers Sabine Escambre, Bien-être au naturel.
Avec plaisir.
Tu veux rajouter quelque chose peut-être avant de conclure ce podcast ?
Rien de spécial, mais c'est vrai que quand tu parlais d'intervention, ça pourrait être pas mal en collège ou quoi, même sur des clubs au club de foot ou des trucs comme ça peut être intéressant de faire...
Là, mon objectif, c'est un peu démarcher les entreprises, ce genre de choses, parce que je me rends compte que surtout depuis le Covid, il y a énormément de besoins et de demandes.
Mais c'est vrai que je vois pas encore les sports co-amateurs ouverts à ça, mais les sports individuels, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils seraient très friands. J'avais fait, sans leur faire de fausses pubs ou de bonnes pubs, mais avec le tennis, là, Gaël qui était venu parler dans ce podcast, ils avaient organisé une conférence avec une dame qui faisait de la préparation mentale. Et j'y étais allé, il m'avait invité et j'y étais allé. Donc c'était très intéressant aussi, mais c'était plus de la préparation mentale. En termes d'entraînement, c'était même pas de l'hypnose, là, on était vraiment trouver un état de décontraction et de concentration en même temps. Ça, je pense que c'est un maître mot qui revient, être concentré et détendu. Et donc,
mental.
C'est le maître mot, mais voilà. Alors, les musiques que vous allez entendre, que vous avez entendues, dans ce podcast, sont les choix de notre invité, que je remercie encore beaucoup d'être intervenu sur nos ondes, et j'y tenais vraiment beaucoup à ce qu'elle vienne.
Merci à toi pour l'invitation.
C'est l'hypnose qui te fait parler.
Ouais, là.
Tout à fait. Merci. J'aimerais bien, mais que faites-vous là, madame? Je ne sais plus ce que vous faites là. Vous savez que vous pouvez écouter ce podcast, sinon vous ne m'entendrez pas, sur Deezer, sur Spotify, sur Audible, sur Podcast Addict. Et vous savez que ce podcast-là est adressé à des personnes qui sont pratiquantes du dimanche, sportifs, professionnels, amateurs, bénévoles, intervenants, élus locaux, enfin peu importe. Ce podcast n'existerait pas sans vous, donc je compte sur vous pour nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram également, mais aussi au travers de notre boîte mail csc04@outlook.fr. Merci encore, chers amis, et à très bientôt pour un nouveau numéro.
Je dis aime et je le sème sur ma planète.